Peut-être nous donner un exemple. Parlons d'un exemple, justement, en milieu de travail par rapport à la question de santé et sécurité au travail, mais en même temps au droit de la personne de consommer. Mais quand même, les entreprises doivent-elles s'inquiéter là, de ce qui pourrait arriver, justement, chez elles, avec quelqu'un qui consomme?
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau de la santé et sécurité au travail, ça, c'est la loi sur la santé et sécurité au travail. Bon, je mets des politiques, j'indique à mes employés là, la marche à suivre pour leur santé, leur sécurité au travail, pour m'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'accident. Mais, malgré tout ça, s'il y a un accident en milieu de travail, là, je tombe sur la loi sur les accidents, maladies professionnelles qui va venir indemniser mon salarié. Si j'ai, par exemple, un salarié qui est dans le milieu de travail, prenons une entreprise à haut risque de métallurgie ou de bois, ou pour ne donner que ces exemples-là, que j'ai un employé qui a les capacités affaiblies par le cannabis et qui arrive à un accident de travail. Donc, il se blesse. C'est sûr que ça a une incidence pour l'employeur parce que cet employé-là qui se blesse va être indemnisé par la loi sur les accidents, maladies et travail professionnel, donc la LATMP. Ils vont recevoir leur indemnité de revenus de la CNESST. Mais en arrière de ça, ce qu'il faut penser, c'est que ça a un impact direct financier pour les employeurs parce que eux, ils ont des cotisations à verser à la CNESST. Puis au surplus, lorsqu'un employé se blesse sur les lieux du travail, ben là, ils ont à verser également d'autres sommes à la CNESST. Ils sont imputés à ce moment-là. Donc, c'est sûr que financièrement parlant, ça a une conséquence pour l'employeur là, à ce moment-là, qu'il y ait un accident de travail. Et ça, peu importe là, si c'est parce qu'il l'a chuté sur le plancher parce que le plancher était mouillé ou parce qu'il avait consommé du cannabis, il y a accident de travail. L'employé dans l'exécution de son travail.
Et donc, puis en plus, la problématique, ça va être de découvrir, ben, parce que c'est dur à percevoir, justement, une personne qui a consommé du cannabis, là, sans faire de test, c'est plus difficile. Donc, on s'expose à ça, là, cet exemple-là que vous venez de nous donner.
Bien, on s'expose et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sans égard à la faute, sans égard à la responsabilité, là, c'est du no-fault. Mm-hmm. Là, c'est accident de travail, maladie professionnelle. Donc, la CNESST, dans le cadre d'un accident de travail, à moins qu'il y ait faute lourde, décès, mais là, je rentre dans des exceptions.
Oui.
C'est du no-fault. Okay. Donc, l'employé, même s'il n'avait pas été finalement, s'il n'avait pas eu les capacités affaiblies, l'accident ne serait pas arrivé, exemple.
Oui.
Mais là, il l'a consommé, malheureusement. Il a eu un moment d'inattention relié au fait qu'il avait les facultés affaiblies. Il y a un accident de travail, il sera indemnisé et l'employeur en sera imputé.
Donc, d'où l'importance d'avoir une politique et en tout cas de tenter de limiter cette consommation au milieu de travail. Donc, c'est toute une gestion personnelle à avoir aussi, là, de sensibiliser, là, beaucoup de sensibilisation, j'imagine, là, pour le personnel.
Beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation à l'intérieur, de la formation au niveau de nos employés, au niveau de nos cadres, de tous les gens là, qui chapeautent les employés, mais également une éducation à faire au niveau des employés eux-mêmes sur les risques reliés à la consommation. Et là, tout ce qui vient avec cette fameuse consommation-là de cannabis, c'est que si, exemple, un jeudi soir, je déborde, je prends quelques boissons alcoolisées avec des amis, le lendemain, je rentre au boulot, ben, il y a des bonnes chances que je rentre quelque peu fripé, mais je n'aurai pas les facultés affaiblies. Et ça disparaît de mon sang. Mais le cannabis, quand on pense, tout à l'heure, quand je parlais de tests aléatoires, pourquoi les chartes de droits et libertés viennent allumer finalement une lumière rouge, c'est que si je consomme un jeudi, un joint autour d'un feu avec des amis, à titre d'exemple, ben le vendredi, je vais en avoir dans mon sang, le samedi, le dimanche, le lundi, ça peut rester jusqu'à 3 mois dans l'organisme. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus difficile de venir le détecter parce que même si je fais un test aléatoire, ça ne veut pas dire que la personne a consommé dans le milieu de travail. Ça veut juste dire que dans les 3 derniers mois, il a consommé.
Oh là! Problématique!
Et voilà.
Donc, c'est une gestion qui ne sera pas facile.
Non, effectivement, c'est sûr que...
Est-ce qu'il y a des trucs, des outils que les employeurs peuvent utiliser? Comment on va faire pour... faire un peu de gestion à travers tout ça? Avez-vous quelques idées? quelques trucs à donner, je dirais?
Bien, le premier truc ou la première idée, c'est vraiment faire de la sensibilisation en milieu de travail. Venir sensibiliser pour que tout le monde comprenne bien les risques associés à ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de mettre en place une politique pour, à titre d'employeur, venir se protéger dans le cas où il y a finalement, consommation de cannabis en milieu de travail et que j'ai un employé ayant les facultés affaiblies. C'est ce qu'on doit faire. Regardez également si j'ai un employé avec une problématique de dépendance et que cette dépendance-là peut être considérée comme un handicap en vertu des chartes des droits et libertés. À ce moment-là, qu'est-ce que mon entreprise va faire comme accommodement raisonnable? Est-ce que je vais offrir une cure de désintoxication à cet employé-là? Lorsqu'il sera de retour, on s'assoit avec lui, on lui fait signer une entente qu'on appelle dite de la dernière chance, où là, on pourrait prévoir que si on a des doutes de consommation, l'employeur se réserve le droit de demander à ce moment-là de faire un test de dépistage. Mais c'est vraiment des étapes qui devront être franchies. Et c'est comme ça que l'employeur va y arriver, mais en ayant une gestion quand même assez serrée à ce niveau-là. Et c'est sûr que les employeurs, va falloir qu'on soit très encadrant là-dedans, parce que toute décision qui sera contestée dans les prochaines années aura une incidence jurisprudentielle. Donc, on va se servir, finalement, ça va créer des précédents. Mm-hmm. Donc, pour les prochaines années, il est évident que les employeurs devront faire leur devoir. Si on veut que dans 10-15 ans, on ait de la jurisprudence qui nous protège les employeurs.
Oui, bien, en tout cas, je comprends que ce ne sera pas facile avec l'exemple que vous avez donné tout à l'heure. Puis même avec des tests, quelqu'un peut avoir consommé il y a 3 jours, donc le test va nous peut dire que oui, il y en a dans le sang, mais on pourra peut-être se défendre sur cet aspect-là. En tout cas, c'est ouf. Ce ne sera pas sûrement chose facile.
Non, parce que la machine, je peux l'appeler ainsi, qui détecte le taux de THC. Écoutez, actuellement, même Nicolet, là, où on forme les policiers, indique au gouvernement, écoutez, on n'est pas tout à fait prêt. Il y a toute une logistique derrière ça, là, parce que il faut qu'elle soit calibrée, il faut qu'elle soit capable de détecter le THC. Il n'y a pas si longtemps, on parlait d'alcool au volant, puis maintenant, on a un arrêt de jurisprudence de principe là, qui vient indiquer que tous les détecteurs sont calibrés. Mais là, on s'en va dans le cannabis, on s'en va dans autre chose.
J'imagine la question des tests va peut-être arriver plus souvent que l'alcool, où on peut le constater assez rapidement, là, quelqu'un qui est en capacité affaiblie. Là.
Oui, c'est sûr que nous, on s'attend dans le cadre de la formation à se faire poser souvent cette fameuse question-là sur les tests de dépistage, parce qu'il est vrai que quelqu'un qui arrive en état de consommation d'alcool, il y a des signes qu'on est capable de facilement détecter. Par contre, au niveau de la consommation de cannabis, il y a également des signes, une façon de voir que l'on va pouvoir outiller finalement là, l'employeur là-dedans. Là.
Merci pour tous ces détails. Ça nous donne des pistes. C'est évident qu'il va falloir que les entreprises vont falloir faire face à cette situation en milieu de travail. On peut dire qu'il y a des parallèles beaucoup avec l'alcool, mais disons que c'est une étape de plus à franchir et ce sera à suivre. Merci beaucoup. Puis on invite justement les entreprises intéressées chez vous par une formation là-dessus. Alors, c'est à l'UQAR. Hein? Ce sera donné par l'Université du Québec à Rimouski. C'est bien ça, Mme Nadeau?
C'est donné, en fait, par la formation continue de l'UQAR. Donc, c'est grâce à la formation continue là, qu'il y a eu cette initiative-là de donner cet atelier-là, cette formation-là.
Merci beaucoup à vous pour avoir participé à notre émission.
Ça me fait plaisir. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. C'est
Est-ce qu'on pourra...
un beau défi.
Oui, on le comprend bien. On le saisit très bien, d'ailleurs, en ce moment. Merci beaucoup d'avoir intervenu sur nos ondes, Céline Nadeau, encore une fois.
Ça me fait plaisir. Merci à vous.